Il est 12h05 et devant la place Gaillon, où les badauds se précipitent, arrivent peu à peu les membres de l'Académie Goncourt.
Nous sommes à Paris, le 6 décembre 1954.
Le 51e prix Goncourt a été décerné au mandarin de Madame Simone de Beauvoir par 7 voix et 2 à Heure exquise de Las Vergnas.
Avec les mandarins, à l'âge de 46 ans, Simone de Beauvoir a atteint son rêve de jeunesse, devenir une grande écrivaine. Mais ce roman dissimule autre chose. En creux, il dessine certains doutes qui, peut-être, agitent Simone de Beauvoir face à la marche de l'histoire.
J'ai envie que les gens me connaissent, parce que parmi les gens qui me lisent en particulier, il y en a beaucoup qui se trompent tout à fait sur mon compte. Et parmi les gens qui ne m'ont pas lu mais qui ont entendu parler de moi, il y en a également beaucoup qui se trompent sur mon compte.
Au début des années 50, Beauvoir et Sartre sont deux intellectuels français très en vue. Deux figures majeures de l'existentialisme. Depuis la Libération, ils ont tenté d'inventer une troisième voie. Autrement dit, ni le capitalisme américain, ni les goulags de Staline. Donc, ni l'impérialisme, ni le communisme.
Vive à jamais notre cher et grand Staline, vive le communisme!
Et puis, avec la fin du régime stalinien, Beauvoir et Sartre se rapprochent du marxisme. Pour quelles raisons? Par quel chemin? Et avec quelles conséquences? Et puis surtout, quel regard porte Simone de Beauvoir sur ce choix politique? C'est ce que vous allez découvrir dans ce nouvel épisode.
Je n'ai jamais pensé que j'avais raté ma vie. Je suis extrêmement contente de ma vie, puisque j'ai réussi à peu près tous mes rêves.
Je m'appelle Philippe Collin, et vous écoutez Simone de Beauvoir, un voyage en bourgeoisie. Cinquième épisode, la grande lueur de l'Est.
Je m'efface donc maintenant pour donner la parole à Simone de Beauvoir.
J'ai commencé à vouloir vraiment écrire vers 15 ans. Je voulais écrire pour retenir quelque chose de la vie. Mais c'était primordial chez moi, vivre.
Mais pourtant, vous avez eu une éducation très bourgeoise.
C'est pas une raison pour aimer la bourgeoisie. Je souhaite que les femmes deviennent des êtres humains qui soient absolument autonomes et responsables d'eux-mêmes comme les hommes.
Comme le Capital de Marx sert de référence idéologique aux communistes, les féministes du monde entier, aujourd'hui, se réfèrent au deuxième siècle.
L'histoire débute le 29 janvier 1952. Ce jour-là, à Paris, Simone de Beauvoir conduit une voiture.
Première pour reporter.
Assis à ses côtés, un homme en cravate lui donne des instructions.
Allez, tout droit et franchement.
C'est un inspecteur.
Plus vite.
Simone de Beauvoir passe son permis de conduire. Et ce n'est pas anecdotique. C'est une conquête.
Dépassez-le à droite, vous avez parfaitement le droit de dépasser un véhicule qui tourne à gauche.
La plupart des femmes ne conduisent pas à l'époque.
Accélérez.
Et encore moins.
Quatrième.
Chez les bourgeoises. Savoir conduire, c'est maîtriser la mécanique d'une boîte de vitesse. C'est être à la hauteur des hommes. Le permis de conduire, c'est la liberté de mouvement. C'est l'aventure. Et puis, c'est aussi une expérience vécue, comme une concrétisation de sa pensée existentialiste. Car en 1952, dans un Paris qui est alors le centre du monde culturel occidental, Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre incarnent un courant philosophique majeur, l'existentialisme. Alors, avec quelques mots simples, essayons d'expliquer ce qu'est l'existentialisme.
L'existentialisme vient du mot « existence ». Effectivement, dans la philosophie, on distingue souvent « essence » et « existence ».
François Nudelmann, philosophe.
Alors, ce ne sont pas les premiers qui réfléchissent à l'existence en tant que telle. Depuis Kierkegaard, on a un certain nombre de philosophes qui essayent de se passer justement des hauteurs métaphysiques pour aborder l'homme, l'humain, en tout cas l'homme et la femme, dans leur concret. Et existence, ça veut dire se tenir là, se tenir sur Terre, exister, se tenir, mais se tenir comme surgissant de quelque chose. Mais surgissant de quoi? De rien. L'existentialisme suppose que justement il n'y a pas de prédétermination, il n'y a pas de nature. créature humaine, il n'y a pas de dessein de Dieu. Dieu n'a pas créé les êtres humains pour quelque chose. La nature elle-même ne prédit pas un destin aux êtres humains. Donc, on part de rien. On part de rien, mais du coup, au lieu d'être une philosophie pessimiste comme certains l'ont cru, disant, ben voilà, il n'y a rien, il n'y a pas Dieu, il n'y a pas de nature humaine, on est seul au monde, voilà. Eh bien, au contraire, c'est précisément parce qu'il n'y a rien que les êtres humains se sentent portés à faire quelque chose et surtout à donner un sens à leur existence. Donc, la formule la plus célèbre de l'existentialisme, c'est l'existence précède l'essence. Donc, on existe d'abord, sans mission, sans destination, et puis, on se donne un sens, et donc, du coup, on se crée une essence. Et par quoi ? Par ses actions, par, justement, la perspective qu'on donne à nos vies.
La grande idée de l'existentialisme.
Jean-Paul Sartre, 1947.
C'est précisément de lutter contre le sentiment d'impuissance. Nous pensons que l'homme n'est jamais impuissant que lorsqu'il est persuadé qu'il l'est. Ah, alors là, c'est vraiment l'impuissance parce qu'il ne fait plus rien, parce qu'il attend du dehors et que les choses arrivent en dehors de lui. Mais même dans les situations les plus écrasantes, l'existentialiste pense que l'homme est libre.
Donc l'existentialisme n'est pas un pessimisme comme on l'a accusé, parce qu'effectivement Sartre s'est défendu et Beauvoir aussi après la guerre, disant voilà, bah, après tout ce qui s'est passé, on a besoin quand même d'une philosophie qui soit plutôt optimiste, le mot n'est pas pertinent, mais enfin en tout cas une philosophie qui nous donne un but, qui nous laisse pas dans le désespoir. C'est pas du tout une philosophie du désespoir, bien au contraire, c'est une philosophie de l'espoir où chacun est responsable du propre sens de son existence.
Est-ce que vous diriez, pour faire un raccourci, que c'est une philosophie de l'expérience vécue ? Est-ce que c'est ça l'essence, finalement, de l'existentialisme ?
Oui, le vécu, c'est une notion très importante. Ce n'est pas la réflexion, ce ne sont pas les essences, les abstractions qui définissent le moteur même de l'existence. C'est la vie, l'expérience, c'est le vécu, comme vous dites. C'est une philosophie, effectivement, qui va, dans les situations les plus concrètes, donner matière à réflexion. Il n'y a pas besoin d'aller sur les hauteurs, mort, la mort, Dieu, je ne sais quoi. Non, c'est très concrètement, bon, j'ai un choix à faire, quel type de vie, mais quel type aussi de relation je veux. Dans les moindres situations les plus concrètes, le vécu est objet de réflexion philosophique.
Récapitulons. En 1952, Beauvoir obtient son permis de conduire et elle incarne le courant existentialiste. Le deuxième sexe, par exemple, appartient à ce courant d'idées. Et enfin, toujours en 1952, un jeune journaliste, diplômé en philosophie, entre dans sa vie.
Claude Lanzmann, dans Le Lièvre de Patagonie. J'ai aimé aussitôt le voile de sa voix, ses yeux bleus, la pureté de son visage, et plus encore celle de ses narines. Quelque chose dans ma façon de la regarder, dans mon attention lorsqu'elle prenait la parole ou interrompait Sartre en l'appelant « vous autres », devait lui signifier l'attrait qu'elle exerçait sur moi.
À l'époque, Claude Lanzmann n'a que 27 ans. Ils ont 20 ans d'écart. Lui va devenir écrivain et cinéaste, réalisateur de Shoah, film choc de 9 heures sur l'extermination des Juifs d'Europe par les nazis. Mais en 1952, il n'est qu'une figure mineure du milieu intellectuel. Et il tombe amoureux de Simone de Beauvoir, qui, elle, est surprise.
Il y a quelqu'un qui veut m'aimer. Un jeune homme qui veut m'aimer. Et ça, c'est très beau.
Danielle Salnave, académicienne et biographe de Simone de Beauvoir.
Elle ne dit pas, par sa pudeur habituelle, qu'elle veut l'aimer. C'est probablement le cas. Mais le fait qu'il veuille l'aimer, elle est en train de douter furieusement de sa beauté, de son pouvoir de séduction. Elle pense qu'elle entre dans la vieillesse. À ce moment-là, Claude Lanzmann a connu Simone de Beauvoir et Sartre par l'intermédiaire de Jean Coe.
Jean Coe était écrivain, secrétaire de Jean-Paul Sartre et ami de Claude Lanzmann. Alors, qu'est-ce que racontait Lanzmann de sa relation avec Beauvoir ?
Il dira à plusieurs reprises qu'il a été extrêmement attaché à elle, mais qu'au départ, Il est un jeune homme qui est prêt à faire des paris sur sa séduction quand il rencontre des femmes brillantes, importantes, etc. Et c'est évident. Mais de toute façon, il est clair qu'il est pris au piège. Si piège il y a, il est pris au piège aussi.
La première nuit que nous avons passée ensemble...
Claude Lanzmann, 2007.
Elle m'a dit, sans que je lui demande quoi que ce soit, il faut que tu saches, il y a eu tel homme dans ma vie. Voilà, les doigts d'une main. Pas plus. J'étais quand même un très jeune homme, j'avais 27 ans. Et j'étais stupéfait par cette déclaration, alors que je ne lui demandais rien. C'est une déclaration qui l'engageait et qui m'engageait.
Ce qui est intéressant, c'est que cette relation arrive à un moment où Beauvoir pense qu'elle est rangée des voitures, en gros. Que c'est fini pour elle, les joies de la vie.
La philosophe Manon Garcia.
Et c'est intéressant, en fait, de se dire comment ça se fait que cette femme, si moderne, si intrépide, etc., il faut quand même imaginer, hein, faut se rappeler qu'à 24 ans, elle partait toute seule sur les chemins de randonnée en espadrilles pendant 14 heures d'affilée. Il y a un passage comme ça, elle va en Corse toute seule pendant 10 jours faire de la randonnée dans les années 20. Enfin, elle était vraiment intrépide et tout d'un coup, elle a 45, elle a la quarantaine, quoi. Et elle se dit, bon, ben, c'est fini pour moi. Je ne marcherai plus jamais sur les sommets, je n'aimerai plus personne. Et en fait, on peut quand même voir ça... comme une forme de dépression, de très grande peur de la vieillesse.
Ça fait trop longtemps qu'un homme ne m'a pas prise dans ses bras.
Castor, s'il vous plaît, ne pleurez pas. Je suis là. Nous avons nos livres.
À quoi ça sert d'écrire si c'est pour devenir du bois mort? Je voulais écrire ça, oui, mais surtout je voulais vivre.
Et arrive Lanzmann et... leur amour, donc il est beaucoup plus jeune qu'elle, il a un goût de l'aventure qu'elle dit ne plus avoir. Et avec lui, elle redécouvre ce plaisir du voyage, de la randonnée, de la découverte, cette énergie de la jeunesse à travers leur amour. Et en fait, c'est intéressant, c'est le seul homme avec qui elle va vivre dans sa vie, puisqu'elle n'avait jamais vécu avec Sartre. C'est le seul à qui elle va donner vraiment accès... à elle tout entière, elle va dire que c'est vraiment son amour absolu, qu'elle n'a jamais aimé comme ça. Donc ça va avoir un rôle vraiment fondamental dans son existence.
Claude Lanzmann dans le Lièvre de Patagonie. Nous partîmes au lever du soleil, en vrai montagnard, mais en espadrille, comme l'année précédente, sans avoir rien appris, sans crème, ni onguent, ni couvre-chef. Tout alla bien pendant la première partie de l'ascension. Je pleurais d'amour devant le courage têtu du castor, la régularité de sa marche. Il commença à faire chaud. Je décidai d'exposer aux rayons bienfaisants de l'astre mon dos, ma poitrine, mes bras, mes épaules.
Après, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir comment... lui et elle écrivent sur cette histoire après coup. Elle a une très grande fidélité en fait à cette histoire. Elle lui est très reconnaissante en fait de ce qu'elle conçoit comme 10 ans gagnés sur la vie, quoi, qu'elle passe avec lui, enfin un peu moins de 10 ans, 7 ans, mais que ça lui a donné une nouvelle jeunesse, une nouvelle énergie, etc. Et lui, je pense que sur le moment, il passe des moments très importants avec elle, etc. Mais rétrospectivement, quand on lit Le Lièvre de Patagonie, donc ses mémoires à lui, on est frappé par le très grand sexisme qui est le sien après coup sur cette histoire quand il dit, bon, évidemment, elle se faisait pas du tout d'illusions sur le fait que j'allais la tromper, que j'allais un jour la quitter pour une femme beaucoup plus jeune. Enfin, que pouvait-elle donc imaginer que j'allais rester avec elle très longtemps? Enfin, il y a un truc un peu comme ça surprenant quand on lit leur mémoire. Mais je crois que c'est lui, dans la fin de sa vie, qui est pas devenu un très grand ami des femmes. Mais je crois qu'à ce moment-là, ils sont dans une relation vraiment égalitaire aimante, et que lui reste, en fait, jusqu'à la mort de Beauvoir, je crois qu'ils passent 2 soirées par semaine ensemble. Donc, lui, il dit dans ses mémoires, oui, j'étais trop jeune pour elle, etc. Mais au fond, quand même, il passe tout le reste de la vie de Beauvoir à lui consacrer 2 soirées par semaine, ce qui est quand même énorme.
Lanzmann s'installe chez Beauvoir, rue de la Bûcherie, près de la Sorbonne à Paris. Et ils vivent leur passion amoureuse jusqu'en 1959. Par ailleurs, sachez que Claude Lanzmann fut un jeune résistant communiste en Auvergne sous l'occupation allemande. En 1952, il est resté proche du Parti communiste français. Et à ce moment-là de leur vie, ça touche une corde sensible chez Beauvoir et Sartre.
Quand on veut toucher les classes populaires, il faut passer par le Parti communiste.
Le philosophe François Nudelmann.
Donc il y a toute une question sur voilà, comment peut-on être ou pas marxiste, et si on est marxiste, comment on peut être indépendant du Parti communiste. Dans les années 50, effectivement, le jeune Lanzmann devient l'amant de Simone de Beauvoir. Donc ça, c'est une donnée qu'il faut prendre en compte. Il n'y a pas seulement les grandes idées politiques, mais il y a aussi les histoires sentimentales. Je ne suis pas sûr que Sartre lui ait donné tout de suite un grand crédit intellectuel, mais enfin, en tout cas, il fait partie de ce couple. Il est surtout du côté de Beauvoir, ça c'est certain. Mais il entre au temps moderne, et dans cette revue, il joue un rôle notamment sur les écrits politiques et la tendance aussi au ralliement avec le Parti communiste, parce que, je vous rappelle, voilà, on est en 52, et ça va être un compagnonnage de route, parce que Sartre ne prend pas sa carte au PC, ni Beauvoir, et pendant 4 ans, ils vont effectivement soutenir toutes les initiatives, non seulement du PCF, mais aussi de l'URSS. Tout ça, évidemment, s'arrête en 56, avec l'invasion de la Hongrie par l'URSS.
Pour comprendre ce rapprochement, François Nudelmann, il faut revenir sur le contexte quand même. C'est important de préciser ça parce que aujourd'hui, il est facile de les juger, cet aveuglement, cette méprise, etc. Or, il faut bien raconter dans quel monde nous vivons dans les années 50.
Oui, effectivement, c'est la guerre froide. Et un grand nombre d'intellectuels choisissent le camp, entre guillemets, de la paix, et croient que c'est le mouvement de la paix, et choisissent clairement l'Union soviétique par rapport aux États-Unis. Et Sartre, effectivement, plutôt que de chercher une troisième voie, comme on dira souvent, au-delà de l'affrontement entre les États-Unis et l'URSS, eh bien, le choix est fait de soutenir l'URSS, qui leur apparaît comme un mouvement de paix.
Éditorial politique du centriste Jean-Paul David, 1954.
Rentré d'un voyage en Union soviétique, Jean-Paul Sartre a donné une interview à un journal nettement favorable à l'URSS. Les impressions de l'auteur des mains sales ne se signalent pas à l'attention. Par une originalité particulière qu'on aurait pu attendre de l'écrivain philosophe, qui, sans être allé chez les Martiens, précise avoir rencontré là-bas des hommes d'un type nouveau. Le contraire aurait été surprenant, car lorsque, depuis 37 ans, une nation subit le régime concentrationnaire, c'est-à-dire quand une génération entière est passée sous l'implacable broyeur d'armes, d'esprit, de conscience qu'est le robotisme bolchevique, il est indéniable qu'elle a dû engendrer des individus d'une espèce introuvable en pays libre. Aussi, pour mériter les louanges de ses hôtes soviétiques, il a le soin d'affirmer que les gens qu'il a dû quitter sont gais, heureux et n'ont pratiquement aucun souci matériel. Voilà le bouquet final de cet éclatant feu d'artifice que constitue l'interview de notre pèlerin.
C'est quand même un aveuglement, il faut le reconnaître, même s'il faut le mettre en contexte. Et si aussi il a été partagé par, je dirais, la très très grande majorité des intellectuels français et européens. Donc ils vont en URSS, ce qu'ils écrivent, les témoignages, les lettres... montre qu'il se laisse draguer par la propagande soviétique. Il y a des pages qui ne sont effectivement pas forcément très glorieuses aujourd'hui, mais effectivement, il faut les mettre en contexte. C'est-à-dire pas glorieuse quand tout d'un coup, ils s'admirent les défilés à Moscou, quand tout d'un coup, cette amitié avec Khrouchtchev aussi, ce déni de la dictature soviétique, ce déni de toutes les oppressions qui sont vécues en URSS et par les pays de l'Est. Oui, on peut reconnaître que c'est un aveuglement volontaire.
Est-ce que vous diriez aussi, presque d'un point de vue de philosophie politique, que le bolchevisme, c'est aussi peut-être l'avènement du genre humain, c'était l'antinazisme, c'était peut-être un avenir où il n'y aurait plus de nation, donc plus de nationalisme, plus de guerre peut-être.
Absolument. C'est une illusion d'ailleurs qui va précéder Sartre et Beauvoir, puisque aussi dans les années 20, dans les années 30, on peut penser notamment aux surréalistes, beaucoup y ont cru. Ils ont cru, même un ami très cher de Sartre, Paul Nizan, lui s'est engagé très tôt et il est allé là-bas en pensant que, tenez-vous bien, l'URSS allait changer le rapport des humains à la mort, que les êtres humains n'auraient plus peur de la mort, parce que collectivement, ils ne seraient plus tout seuls face à cette incertitude et qu'ils pourraient construire un avenir. Et il revient très déçu, parce qu'il est très content des réalisations communistes, sauf de ça, ils n'ont pas réussi à changer le rapport à la mort. C'est pour vous dire vraiment un peu l'espoir...
Et la foi.
La foi, oui, exactement, je crois que c'est le mot. La foi qui est mise dans cette politique soviétique, changer le genre humain, ça a été cet espoir d'un futur nouveau. Et alors, sans forcément que Sartre et Beauvoir soient dans cette illusion, malgré tout, ils ont, plutôt que d'une foi, je dirais un volontarisme. Il faut que ça soit vrai. Il faut que ça existe. Ça va s'auto-réaliser. Et donc, ils sont dans le camp, effectivement, de ce qu'ils croient être la paix, et qui est en fait celui de l'oppression communiste.
Maurice Thorez, au 12e congrès du Parti communiste français, 1950.
La politique de paix de l'Union soviétique répond aux aspirations de tous les peuples. Elle trouve son fondement dans la nature même du régime socialiste, qui ne connaît plus les contradictions inhérentes au système capitaliste. Si le capitalisme, c'est la guerre, le socialisme, c'est la paix.
C'est l'époque aussi, 52, 53, 54, où le couple Beauvoir-Sartre va se rapprocher du Parti communiste français en tant que compagnon de route. Comment est-ce que vous expliquez ce rapprochement politique, Daniel Salneuve ?
Les années 50 et 60, ce sont les années de l'après-guerre, ce sont les années des débuts de la guerre froide, c'est la guerre de Corée. Ce sont des affrontements où on peut penser un moment que la bombe atomique pourra jouer son rôle, comme elle l'a joué de façon atroce, pour en finir avec la Deuxième Guerre mondiale, quand même, Hiroshima, Nagasaki. Là, on y pense, c'est certain.
Tout est mort, disparu, volatilisé. Vision dantesque et monstrueuse. Nous savons maintenant quels sont les vrais aspects d'une fin du monde.
Je comprends qu'à ce moment-là, le choix qu'ils font, il est éclairé par une phrase qu'elle prononce quelques années plus tôt en disant « Nous devrons, après la libération, être attentifs à ce qui devra être la philosophie de ce temps. La philosophie de ce temps, ça va être pour eux le marxisme, Sartre disant la philosophie indépassable de notre temps, mais un marxisme qui va être soumis à rude épreuve, à la fois par le communisme réel, par les événements de Budapest en 1956. Et Sartre sera en dialogue, parfois, hélas, avec quelques aveuglements ou quelques silences qui, aujourd'hui, nous préoccupent forcément. Et Simone de Beauvoir est un peu en retrait par rapport à cela. Elle est un peu d'elle-même, je ne sais pas si elle y serait allée. Sans Sartre d'abord et Lanzmann ensuite. Je ne sais pas.
Certes, l'influence de Claude Lanzmann et de Jean-Paul Sartre a dû jouer en faveur de son engagement marxiste. Mais il ne faut pas négliger des ressorts plus personnels chez Beauvoir. Se rapprocher du communisme, c'était aussi une manière de rompre avec l'héritage de la jeune fille bourgeoise, comme une nouvelle étape de son voyage.
Simone de Beauvoir, dans Mémoire d'une jeune fille rangée, 1958. Mon père m'expliqua qu'une nation, c'est un ensemble de biens. et à ceux qui les détiennent revient normalement le soin de les administrer. Depuis la création des syndicats, disait-il, les véritables opprimés, c'étaient les patrons. Si les ouvriers haïssaient la bourgeoisie, c'est qu'ils étaient conscients de sa supériorité. Le communisme et le socialisme ne s'expliquaient que par l'envie. Et l'envie, répétait mon père, est un vilain défaut.
Siècle de tradition littéraire, les Goncourt se sont mis à table pour décerner leur prix annuel. Les neuf parmi lesquels Francis Carco, Roland Dorgelès, Pierre Macorlan, Philippe Héria et Armand Salacrou ont couronné les mandarins de Simone de Beauvoir qui demeura invisible.
Revenons à ce roman de Simone de Beauvoir, Les Mandarins, livre dédié à Nelson Algren, son amant américain. Nous sommes donc en décembre 1954. Beauvoir et Sartre se sont rapprochés du Parti communiste. Alors, qu'est-ce que raconte ce roman ?
Les mandarins, c'est quand même l'histoire de ces années-là.
L'académicienne Danielle Salnave.
C'est l'histoire d'un couple dont Simone de Beauvoir répétera « c'est pas un roman à clé, c'est pas un roman à clé ». Je suis d'accord. Il y a quand même quelques serrures et on a très envie un peu de trifouiller dans les serrures quand même. Oui, Anne est psychanalyste alors qu'elle n'aimait pas la psychanalyse. Oui, Dubreuil n'est pas un fils de bourgeois mais un fils plutôt de la caste modeste. Mais Dubreuil est engagé du côté du Parti communiste, c'est quand même un peu Sartre. Et puis Henri, soyons, allons jusqu'au bout, ressemble un peu à Camus. Or le grand débat entre Sartre et Camus a porté sur quoi ? Sur le totalitarisme. Les temps modernes ont publié un numéro sur les camps soviétiques. Mais petit à petit, Camus va se détacher par son engagement antitotalitaire. Le premier temps de la querelle, c'était le totalitarisme.
Albert Camus voyait dans l'Union soviétique un système totalitaire. Sartre, lui, s'y refusait. Ils se sont fâchés, mais le temps a donné raison à Camus. Et sous la plume de Beauvoir, dans Les Mandarins, un roman, donc, et pas un essai politique, on perçoit des doutes chez les personnages, notamment chez Anne, la femme de Robert Dubreuil, et chez Henri, un ami du couple.
Extrait des Mandarins de Simone de Beauvoir. Faute de pouvoir me rallier au communisme, ça serait un soulagement de le détester résolument. Si seulement on pouvait être tout à fait pour... ou tout à fait contre. Mais pour être contre, il faudrait avoir d'autres chances à offrir aux hommes. Et c'est trop évident que la révolution se fera par l'URSS ou ne se fera pas. Pourtant, si l'URSS n'a fait que substituer un système d'oppression à un autre, si elle a rétabli l'esclavage, comment lui garder la moindre amitié ?
Dans ces mandarins, Danielle Salnave, en effet, on aperçoit une femme, Anne, qui a des doutes sur les engagements.
Elle a des doutes sur les engagements de Dubreuil et elle se demande si Dubreuil n'en a pas lui-même aussi.
Pour être très précis, les doutes, c'est en effet des doutes sur l'engagement politique de Dubreuil en se disant est-ce que nous faisons une erreur ou pas.
Je suis très, très sensible au fait que vous l'ayez soulevé, ça, parce que je crois qu'il faut rendre ses justices aux mandarins. Elles ne décalquent pas directement leur histoire. Voilà pourquoi elles se fâchent quand on les parle de romans à clé. Mais à partir de leur histoire, elles constituent quelque chose qui est dans les enjeux de ce moment-là. C'est évident. Les enjeux de ce moment-là, c'est attention, attention, qu'est-ce qui se passe, quoi. Dans les années 60, ils continueront, tout en ayant tenté, on va y venir sûrement, d'autres expériences, la Chine, Cuba, mais ils reviendront vers ce qui est l'URSS à l'époque, et au moment des événements de 68, c'est-à-dire de l'entrée des chars soviétiques à Prague, leur séparation, elle est réelle. Mais les années qui précèdent, ils sont retournés régulièrement. Et je ne comprends pas qu'il n'ait pas mieux vu la réalité qui vous sautait au visage à chaque pas qu'on faisait dans les rues de Budapest, de Moscou ou de Prague. Il était impossible de ne pas le voir. Et d'autre part, ils n'ont pas été non plus très attentif à ce prodigieux mouvement de la dissidence.
Après les mandarins, en 1955, Beauvoir et Sartre sont allés rendre visite au grand timonier, toujours plus à l'est.
Le peuple libre salue Mao Zedong, chef du Parti communiste chinois, chef et serviteur du peuple.
Archives soviétiques, 1949. Voici une allocution de Mao Zedong.
Je déclare la création officielle de la République populaire de Chine et de son gouvernement central.
En 1955, Daniel Salmane, ils vont donc se rendre en Chine, invités par le gouvernement chinois, les deux, Sartre et Beauvoir. Qu'est-ce qui motive ce voyage dans la Chine de Mao, Daniel Salmane ?
Je pense que ce qu'ils découvrent tout de même de la réalité soviétique, tout de même en 1955, on est 2 ans après la mort de Staline, on est au moment où va paraître le fameux rapport Khrouchtchev.
Le rapport Khrouchtchev dénonce en février 1956 les crimes de Staline.
Donc, il va en Chine parce qu'il y a, quelque chose de l'ordre de la fuite en avant. C'est-à-dire qu'on est déçu, le stalinisme, il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Peut-être que là, c'est mieux. Et peut-être qu'ensuite, ce sera Cuba. Et de déception en déception, Simone de Beauvoir le dit, déception après déception. Elle le dit dans tout compte fait, c'est-à-dire à l'extrême fin de sa vie, après la mort de Sartre. Mais aller en Chine, ce n'est pas la phrase qui est prononcée à ce moment-là, ce sera à propos de Cuba. Pour Cuba, ils diront, nous allions voir la révolution, saisir la révolution en marche. Mais aller en Chine, c'est tout de même ça. L'histoire, avec sa grande hache, comme disait Georges Perec, c'est aussi une espèce d'immense machine dans laquelle on n'a pas l'ombre d'une capacité d'agir, et on est agi beaucoup plus qu'on agit, et parfois on agit, hélas, pas tout à fait en connaissance de cause. Et s'embarquer dans la Chine à ce moment-là, c'est risqué. C'est risqué parce que les informations manquent, parce que quand Simone de Beauvoir écrira en toute bonne foi qu'on a vaincu la pauvreté et la famine, ce sont les années où il y a des millions de morts.
Après la Chine de Mao, Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre poursuivent leur périple révolutionnaire. Ils atterrissent à Cuba le 20 février 1960. Ils y restent 1 mois, visitent ce nouveau pays communiste et passent plusieurs jours avec Fidel Castro et Che Guevara.
Merci beaucoup.
Señor Sartre, que pensez-vous de notre révolution ?
Eh bien, je suis venu pour le savoir et le faire savoir dans un grand reportage pour François.
Apoya usted nuestra revolución?
Soutenez-vous notre révolution?
Et comment? Elle n'a que 14 mois, elle éclate de jeunesse.
Gracias.
À son retour de Cuba, Simone de Beauvoir retrouve Nelson Algren à Paris. Et fin mars 1960, elle accompagne Sartre à la réception donnée à l'ambassade soviétique en l'honneur de la venue de Nikita Khrouchtchev.
Je vais dire au président que le micro de la radiodiffusion française marche.
Attention.
Archive RTF 1960.
За франко-советскую дружбу, за мир во всем мире.
À l'amitié franco-soviétique, à la paix dans le monde entier.
Vive la paix.
Le couple va ensuite passer plusieurs étés en URSS. Jusqu'au milieu des années 60. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire ?
Ces étés-là sont étonnants parce que Sartre est en même temps... Enfin, moi, je connais bien la correspondance de Sartre à ce moment-là. Il est conscient, et je pense qu'elle est consciente aussi, du fait qu'ils sont utilisés.
Hein. François Nudelman.
Du fait qu'on leur montre comment les ouvriers sont heureux dans les usines pour travailler pour le bonheur de l'humanité et de surtout de l'Union soviétique. Il y a des indices, on comprend que de temps en temps, il n'est pas dupe. Mais ça fait rien, et puis il y a des rencontres. Alors, pardonnez-moi de revenir comme ça aux histoires sentimentales, mais elles ont leur importance dans le couple. Et Sartre a une traductrice de laquelle il tombe très amoureux, qui s'appelle Lena Zonina. Et c'est une histoire très très forte. Ce n'est pas une petite aventure sentimentale. Il y a une correspondance très très fournie qui montre une passion. Une passion de Sartre qui est faite au grand jour, hein, avec, enfin au grand jour, pas de trop de l'URSS, mais de Beauvoir. Hein. D'ailleurs, il y a certaines ressemblances, elles sont amies, hein, Beauvoir et Lena Zonina.
Casta, vous savez, je suis amoureux d'elle. Très. Profondément.
Je sais. Elle est comme nous.
Oui.
Vous allez être tous les deux très malheureux quand vous serez séparés.
Je lui écrirai tous les jours.
Ce sera le moment pour nos amis communistes de nous aider à faire passer le courrier.
Castor, vous êtes quelqu'un.
Il y a des phrases, vous savez, qui sont étonnantes, où Sartre conçoit d'organiser des colloques avec l'UNESCO pour faire venir des intellectuels russes, où la motivation, c'est uniquement d'obtenir un laissez-passer pour Lena Zonina. Hein. Bon, alors, malgré tout, on ne peut pas réduire cette histoire à une aventure sentimentale, et de fait, les propos de Sartre sur les défilés soviétiques sont assez accablants. Enfin, il est un petit peu au spectacle. De ce point de vue-là, Beauvoir est beaucoup plus conséquente. C'est pas forcément à son avantage, mais enfin, en tout cas, quand on lit ce qu'elle écrit de ces voyages-là, elle a plutôt la langue de bois communiste. Hein. Elle y croit, voilà, au plan, à la réussite communiste, et elle le dit avec beaucoup de sérieux dans La force des choses. Donc, elle a une sorte de rigueur intellectuelle, je dirais, que Sartre n'a pas. Sartre, il est un peu plus léger, il a des propos parfois touristiques, amusés, où on sent qu'effectivement qu'il n'est pas complètement dupe de la propagande, mais effectivement, ils acceptent ces voyages, au-delà même de 56, c'est-à-dire même après la rupture avec l'URSS, lorsque la Hongrie a été envahie, ils y reviennent pour diverses raisons, voilà, notamment sentimentales en ce qui concerne Sartre.
Jean-Paul Sartre, lettre à Lena Zonina, janvier 1964. En vérité, la politique m'emmerde. Surtout aujourd'hui. Je finirai par passer mes vacances après l'URSS en Norvège, où l'on ne me demandera peut-être rien.
Cette correspondance entre Sartre et Lena Zonina est dense. Des centaines de lettres où Sartre, en effet, se révèle distant de la politique. Quels enseignements peut-on tirer de ce corpus épistolaire ?
À qu'il y a plusieurs Sartres et qu'il y a sans doute plusieurs Beauvoir. Voilà, tous les deux sont multiples. Et de temps en temps, Sartre explique qu'il aimerait bien écrire des romans, écrire à la manière de Stendhal. Vous savez, Sartre disait « Mon idéal, c'est d'être à la fois Spinoza et Stendhal. » Bon, alors, ce Stendhal, il est le Sartre italien, parce que vous parliez des voyages en URSS, mais en tout cas, il y a un voyage qu'ils ne manqueront jamais jusqu'à la fin.
Sartre.
Se passer les étés en Italie.
J'ai un programme, si vous voulez, d'abord la Scuola San Giorgio pour voir les Carpaccio et ensuite retourner à l'Accademia. On m'a dit qu'il y avait de très beaux Véronèse. Si vous voulez, après, j'offre un amaretto chez Florian.
Ah.
Castor, vous êtes impitoyable. Carpaccio, ça m'embête. Bon, à plus tard.
Et ce côté Stendhal, effectivement, il le réprime constamment. Il a ce goût pour une liberté, pour le dilettantisme. Lui qui est un travailleur forcené, qui écrit tant de pages, qui est un polygraphe maniaque, eh bien, il aime aussi rester à une table de café, voilà, sur une place romaine, à regarder les populations passer. Donc ce Sartre-là, on l'a complètement ignoré. Et j'aime bien le rappeler, non pas pour dire que Sartre ne s'est s'est pas intéressé à la politique. Bon, j'ai poussé le curseur un peu à l'envers, parce que, de l'autre côté, parce que aujourd'hui, ils font figure tous les deux un peu d'épouvantail, ils se sont toujours trompés, voilà. Ce qui peut être vrai, bon, même si qui est-on pour dire, voilà, ils se sont trompés à tel moment, est-ce qu'on se serait pas tous trompés aussi? Mais, en tout cas, j'ai voulu montrer que ils avaient une autre vie que celle de militants. Au fond, d'ailleurs, je pense que Sartre n'a jamais été un militant, ni même Beauvoir. Ils sont plutôt du côté des aventuriers que du militantisme. C'est ce côté, oui, c'est ça, ce côté bohème de Sartre, qui est aujourd'hui ignoré, que j'ai voulu montrer. Je me suis appuyé sur, effectivement, de très très nombreuses lettres, de très nombreux textes aussi qui ne sont plus lus, et qui témoignent de cette autre personnalité de Sartre, et je crois aussi de Beauvoir, oui.
Jean-Paul Sartre, à Simone de Beauvoir, dans la cérémonie des adieux. Pendant les vacances, je voulais plus prendre mon temps que pendant les 9 mois de l'année. Je regardais les choses, je parlais de ce que je voyais, des objets autour de moi, des hommes qui passaient.
Quand on se plonge dans la correspondance de Sartre, comme l'a fait François Nudelman, on a le sentiment qu'il avait régulièrement le désir de s'éloigner de la politique, voire de prendre la fuite.
Je suis d'accord, effectivement, de prendre la fuite, comme vous dites. Hein. Il prenait la fuite, c'est-à-dire il y avait le militantisme, il y avait, par exemple, quand les Mao venaient le chercher, en lui disant, bon, allez, arrête d'écrire ton texte sur Flaubert, ça c'est pour les bourgeois. Un de ses derniers livres, il écrit 3000 pages sur cet écrivain, qu'il n'aime pas d'ailleurs, mais bon, les Mao lui disent, mais tu devrais écrire un roman populaire, voilà, pour les masses, pour le prolétariat, etc. Et Sartre, disait, bon, voilà, je m'engage, j'écris des textes pour vous, mais je me réserve mon temps pour jouer du piano, je me réserve mon temps pour écrire sur Flaubert, je me réserve du temps pour partir à Rome, à Venise ou à Naples. Voilà, donc il a quand même préservé cette part de vagabondage.
Qu'est-ce que vous lisez là ?
Chester Himes, il pleut des coups durs. Très bien, ça me repose de mon Flaubert. Je l'ai trouvé parfaitement insupportable celui-là aujourd'hui.
Dans la nuit du 19 au 20 juillet 1961, l'appartement de Sartre, rue Bonaparte à Paris, est plastiqué. L'explosion est impressionnante, mais les dégâts sont légers. L'attentat n'est pas revendiqué. Sans doute s'agit-il de l'OAS, l'organisation armée secrète, qui se bat pour conserver l'Algérie française.
L'OAS vient de faire sauter l'appartement de Sartre.
Dans leur combat politique, Beauvoir et Sartre se sont beaucoup engagés en faveur de l'indépendance de l'Algérie. Et à la fin des années 50, ils sont outrés par le recours à la torture et le mensonge d'État. Ainsi, le 18 mars 1959, ils tiennent une conférence de presse.
Monsieur.
John Rawlins, New York Herald. Monsieur Sartre, 3 militaires français poursuivis pour torture viennent d'être acquittés. Qu'en pensez-vous ?
Un tribunal militaire vient en effet de relaxer 3 bourreaux. Or, pour une fois, ceux-ci étaient passés à des aveux complets.
Au début de la guerre, on pouvait dire que la France ne savait pas. Aujourd'hui, les Français savent. S'ils persistent à se taire, ils deviendront complices. Or, nous pouvons briser ce cercle de responsabilité irresponsable, de coupable innocence, d'ignorance qui est savoir. Nous pouvons regarder la vérité en face et nous déterminer, chacun en notre âme et conscience, soit pour condamner publiquement les crimes accomplis ou les endosser en pleine connaissance de cause. La France était autrefois un nom de pays. Prenons garde que ce ne soit devenu aujourd'hui le nom d'une névrose. Je vous remercie.
Ce qui va déclencher leur fureur, c'est la violence du pouvoir colonial, notamment la torture.
Le philosophe François Nudelman.
Il faut dire qu'ils ont voyagé déjà, mais vraiment, quand ils ont voyagé en Afrique du Nord, ils ont été conscients du colonialisme, mais pas tant que ça. Hein, pas tant que ça. Quand on voit les descriptions, les correspondances, ils ont un rapport plutôt paysager à ces pays.
Presque touristique.
Pas presque, carrément touristique, on peut le dire. Oui, tout à fait. Et puis, l'engagement politique aidant, et aussi la prise de conscience de l'oppression coloniale, et surtout la torture. C'est vraiment la torture qui provoque l'indignation et du coup l'engagement de Sartre et de Beauvoir.
Au début des années 60, en écho à ce que vous venez de dire, ils vont signer ce qu'on appelle le manifeste des 121. Mmh. D'abord, en quelques mots, qu'est-ce que c'est que ce manifeste ?
C'est un manifeste qui appelle à l'insoumission des appelés français qui doivent partir en Algérie. Donc c'est un texte risqué qui a été conçu rue Saint-Benoît par Marguerite Duras, Mascolo, Blanchot et qui va ensuite être signé par précisément 121 grands intellectuels d'origine très différente. Ça peut être aussi bien Édouard Glissant que précisément Sartre, Beauvoir.
Alors Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir, évidemment, André Breton, Marguerite Duras, Simone Signoret, François Sagan, Alain René. Non, François Mauriac n'a pas signé. Bon, je regrette. Au revoir, monsieur. Picasso a fait dire que Sartre doit l'appeler lui-même.
Boris Pantil, c'est un homme comme les autres. Combien de signatures actuellement ?
Pour le moment, 121.
Vous, monsieur, vous méritez 12 balles dans la peau.
Oh.
J'ai fait l'Indochine, moi, monsieur, et vous tirez dans le dos de nos gars en Algérie, vous êtes un traître.
Laisse-le, ce bigleux.
Simone de Beauvoir se mobilise pour l'indépendance de l'Algérie. Et elle va s'investir corps et âme dans le procès de Djamila Boupacha.
Allô?
Bon, j'ai terminé l'article. Est-ce que vous voulez que je vous le lise avant de l'envoyer ?
Oui, bien sûr.
Ce qu'il y a de plus scandaleux dans le scandale, c'est qu'on s'y habitue. Il semble pourtant impossible que l'opinion demeure indifférente à la tragédie qu'est en train de vivre une jeune fille de 22 ans, Djamila Boupacha.
C'est une affaire atroce, c'est une affaire effectivement d'une militante du FLN qui a été emprisonnée, qui a été mise au secret et qui a subi la torture, le viol par l'armée française. Et elle réussit à faire connaître son sort. Et donc Gisèle Halimi prend en charge son cas et Simone de Beauvoir écrit un livre sur ce cas, sur cette situation. Et ça va devenir une sorte de symbole des atrocités commises du côté de l'armée française. Donc, effectivement, là, on a un engagement de Simone de Beauvoir très clair et net sur un cas particulier.
Je voudrais constituer un comité pour Djamila Boupacha. Cette jeune fille peut devenir un symbole de la lutte contre la torture. Est-ce que vous accepteriez de le présider ?
Évidemment. Quelle drôle de question.
Djamila Boupacha, torturée et violée par l'armée française, est accusée, entre guillemets, de terrorisme. Elle est amnistiée et libérée dans la foulée des accords d'Évian qui mettent fin à la guerre d'Algérie en mars 1962.
Oui, ici Évian, eh bien à Évian, je vous le dis tout de suite, on a le sentiment que d'une minute à l'autre, il va se passer quelque chose. On attend le cessez-le-feu, on attend la paix, je vous le répète, ici à Évian, c'est vraiment du peu. À vous Paris.
Ce conflit colonial entre la France et l'Algérie, en pleine guerre froide, occupe une place singulière dans la vie du couple.
C'est une période où Sartre et Beauvoir, de manière commune, là, se retrouvent sur un même type d'engagement. Après, les engagements vont être parfois différents, mais là, on a vraiment une sorte de couple qui fait corps pour défendre l'indépendance algérienne.
Il y a un fait qui domine toute la politique française, c'est la guerre d'Algérie.
Radio-Canada, Simone de Beauvoir, 1959.
Et je suis résolument contre la guerre d'Algérie et pour l'indépendance des Algériens. Je suis contre l'oppression sous toutes ses formes, et particulièrement sous cette forme d'ailleurs complètement périmée, même d'un point de vue tout simplement réaliste, qui est le colonialisme.
L'académicienne Danielle Salnave.
La guerre d'Algérie, c'est le moment où ils vont avoir le sentiment, assez à juste titre d'ailleurs, d'être en adéquation avec une exigence du moment. La guerre d'Algérie leur paraît, peut-être qu'elle rassemble pour eux un certain nombre des travers, des torts de ce système à la fois économique, politique et social dans lequel vit la France et qu'incarne absolument des guerres coloniales. La guerre d'Algérie incarne évidemment tout cela. Alors ce qui est amusant, si j'ose dire, c'est qu'ils vont se retrouver des alliés inattendus, par exemple François Mauriac. François Mauriac qui, depuis l'article assassin de Sartre, Dieu n'est pas un artiste, Monsieur François Mauriac non plus, tape. François Mauriac écrivant à propos du deuxième sexe, nous savons tout du vagin de votre patronne, tac. On peut dire que c'était violent. Or, qu'est-ce qu'on retrouve ? Un François Mauriac qui, dans son bloc-notes, a des positions extrêmement courageuses sur l'Algérie. Donc, il se retrouve avec des gens comme François Mauriac. Et là, évidemment, ce sont des moments très, très étonnants pour eux.
Au mi-temps des années 60, voilà 20 ans que Beauvoir et Sartre se sont engagés politiquement. Qu'est-ce qu'on peut en dire d'un point de vue général ?
Simone de Beauvoir et plus encore Jean-Paul Sartre seront présents à partir de 1944 à tous les rendez-vous, je dirais, de la radicalité.
Pascal Horry, historien et académicien.
Et ça, c'est très intéressant chez Sartre parce que beaucoup de ses camarades descendent du train avant. Ça conduit Sartre d'ailleurs à un itinéraire tout à fait original. Il est à l'époque des premiers temps modernes de l'émission de radio. Les temps modernes, il est très violemment critiqué par le Parti communiste. Comme Simone de Beauvoir va être critiquée pour le deuxième sexe par la presse communiste, il faut quand même le rappeler. Et puis, il se rapprochera, lui, Sartre, bon, Simone de Beauvoir sur ce plan-là ne fait pas un pas de côté, il se rapprochera du Parti communiste au moment où la plupart des intellectuels de la libération s'en éloignent. C'est quand même très original.
L'éloignement des intellectuels français de l'URSS advient après l'écrasement par les soviétiques de l'insurrection de Budapest en 1956. Alors, peut-on parler d'aveuglement pour Beauvoir et Sartre quand ils persistent dans leur attrait pour la grande lueur venue de l'Est ?
J'ai du mal, en tant qu'historien, à parler d'aveuglement parce que je n'ai pas le culte de l'intellectuel, tout simplement. L'intellectuel n'est pas un saint. Je pense que, en effet, beaucoup de Français, et le sommet est atteint en 1945 avec les temps modernes, hein, même dans toute l'histoire de l'intelligentsia française, depuis le siècle des Lumières jusqu'à nos jours, c'est un sommet. Il y a évidemment une admiration, une volonté d'adhérer à ces fortes personnalités, et il n'y a pas que Sartre et Simone de Beauvoir, sauf que c'est plutôt la société qu'il faut interroger. Ces fameux clercs, ces fameux prophètes, vous avez une religion culturelle qui vaut pour les artistes, je sais pas, Yves Montand. On a besoin apparemment de gourous. Bon, qu'ils aient été entre guillemets aveugles, franchement, ne surprend pas parce que la plupart du temps, par dogmatisme, ils auront plutôt tendance à faire des choix radicaux. Or, dans la radicalité, ben, vous avez aussi bien une radicalité d'extrême droite qu'une radicalité d'extrême gauche qui ne se préoccupe pas forcément des dégâts que peut faire cette radicalité.
En conclusion de ce cinquième épisode, ayez en tête que l'adhésion au marxisme chez Beauvoir et Sartre doit être éclairée à l'aune du contexte. Après-guerre, ils espéraient un monde nouveau et redoutaient surtout une guerre totale, car on a oublié aujourd'hui qu'à l'époque, la menace nucléaire planait sur le destin de l'humanité. Par ailleurs, leur non-engagement dans la résistance face aux nazis a sans doute été un des ressorts de leur tonus radical du côté communiste. Ajoutons aussi, chez l'un comme chez l'autre, un esprit de rébellion face à leur héritage d'une certaine bourgeoisie. Enfin, durant cette période entre 1955 et 1965, Simone de Beauvoir a aussi entrepris une expérience introspective.
Oui, les mémoires d'une jeune fille rangée.
Bon, alors vous avez lu ce livre, Roger Grenier.
Oui, évidemment, les mémoires de Simone de Beauvoir, c'est un événement.
Bien sûr.
Et je les ai lus avec beaucoup de curiosité, mais pas seulement de curiosité, je dois dire, j'ai été ému et même charmé.
En effet, elle s'est mise à écrire ses mémoires en 3 volumes, qui vont rencontrer un immense succès auprès des femmes.
Lettre de lectrice. 29 octobre 1964.
Mais comme vous êtes injuste envers vous! Comme c'est faux que votre expérience n'a rien engendré! car elle a engendré 100 fois mieux qu'une colline, 1000 fois mieux qu'une fusée, un espoir lumineux au cœur de millions de femmes.
Comment Simone de Beauvoir, grâce au succès de ses mémoires, va devenir une icône de la renaissance du mouvement féministe, c'est l'horizon du prochain épisode. Simone de Beauvoir, un voyage en bourgeoisie. Un récit de Philippe Collin, réalisé par Juliette Medevielle. Lecture, Julie Sicard, de la Comédie Française, et Bérangère Varluzel. Assistance éditoriale, Irène Menahem, Frédéric Martin et Aurore Juvenel. Chronologie des faits, Sylvie Lebon de Beauvoir, aux éditions Gallimard. Mixage, Basile Bocquer et Benjamin Orgeret. Prochain épisode, la deuxième vague. Simone de Beauvoir, un voyage en bourgeoisie, est un podcast original de France Inter.